Radio France Internationale, il est 18h ici à Paris, 16h en temps universel. Tout de suite, le journal en français facile.
Le journal
en français facile, Stéphane Duguay.
À la une, aujourd'hui mercredi 8 mai, l'Ukraine plongée dans le noir des coupures d'électricité après des frappes très importantes de la Russie. Vous entendrez un reportage à Kharkiv, près de la frontière russe, où malgré la guerre, les habitants restent sur place. Les négociations pour une trêve à Gaza ont repris ce matin. Dans le même temps, Israël continue ses opérations à Rafah. En réaction, les États-Unis ont bloqué une livraison de munitions pour l'armée israélienne. Nous irons aussi à Hong Kong, qui interdit une chanson, un hymne des opposants pro-démocratie. Et puis la flamme des Jeux Olympiques arrive à Marseille ce soir. Vous suivez son parcours toute la journée et toute la soirée sur RFI. Et on commence avec la flamme olympique, justement en prenant la direction de Marseille. C'est là qu'elle va débarquer ce soir du voilier Le Belém. Des centaines de milliers de personnes peuvent l'observer sous le soleil depuis que le bateau est arrivé au large de Marseille. Cette arrivée marque le début d'un long périple partout en France pour la flamme et même dans les Outre-mer. Du 7 au 17 juin, elle partira de Brest pour aller aux Antilles à bord du maxi trimaran Banque Populaire du navigateur Armel Lecléache. Armel Lecléache, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Marseille. Qu'est-ce que vous ressentez à une heure de l'entrée du Belém dans le Vieux-Port ?
Ah, il y a beaucoup d'émotions, d'impatience aussi, parce qu'on a tous hâte de voir arriver le bateau dans le Vieux-Port. Et puis surtout, on a un public incroyable. Il y a énormément de monde qui s'est amassé depuis ce matin. Les premières personnes étaient là dès 8 heures. Et puis là, c'est fou. Hein. Il y a du monde partout. On a du mal à circuler à pied. Et on sent que tout le monde est impatient, hâte de voir le Belém rentrer dans le Vieux-Port et la flamme allumée sur le chaudron. Ça va être un moment magique.
Vous serez celui qui amènera cette flamme de Brest aux Antilles en juin, je le disais. Qu'est-ce que ça représente pour vous, d'amener cette flamme aux Antilles ?
C'est un honneur, une fierté et puis surtout une grande responsabilité d'avoir cette mission qui m'est confiée avec mon bateau et l'équipage qui va m'accompagner entre Brest et la Guadeloupe, puis ensuite la Martinique. Effectivement, avec mon grand trimaran, on va traverser l'Atlantique, la flamme sera à bord, il faudra en prendre soin, et il faudra qu'on soit surtout à l'heure au premier rendez-vous en Guadeloupe, parce qu'il faudra qu'on arrive le 15 juin à 8h du matin, pour que les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes profitent de ce relais de la flamme, justement, qu'elles puissent faire le tour de l'île, et puis le lendemain, on l'amènera en Martinique. Donc ça va être un grand moment de fête aussi à Brest, parce que moi je suis finistérien, je suis breton, donc on va avoir cette flamme qui va partir du bout de la Bretagne, et puis on va traverser l'Atlantique en une semaine avec des personnalités françaises et françaises.
Et justement, vous parlez de cet équipage qui va vous accompagner. Il y aura par exemple Marie-Josée Pérec, l'ex-Miss France Marine L'Orphelin, ou encore le chef étoilé Hugo Rollinger. Comment vous allez vous organiser à bord ? Parce que ce ne sont pas des navigateurs expérimentés.
C'est ça, ce sont des gens qui aiment la mer, mais qui ne sont pas forcément très aguerris. Donc certains ont très peu navigué. Je ne donnerai pas de nom, mais c'est sûr qu'il va falloir d'abord les former un petit peu. Ils vont venir à Lorient, là où on est basé avec mon team Banque Populaire, là, dans quelques semaines avant le grand départ. Ils vont venir faire une journée de navigation. Ensuite, on leur fera une journée aussi sur la formation sécurité, parce que ce n'est pas anodin de traverser l'Atlantique, surtout sur un voilier de cette dimension, avec les vitesses qu'on va atteindre. Il faudra être vigilant, prudent. Et donc on va les former comme ça, un peu en accéléré, mais ce sont des gens qui ont beaucoup de talent, donc je pense qu'ils vont très vite apprendre. Et puis c'est vrai que d'avoir avec nous notamment Marie-Josée Pérec, qui est une grande athlète, une championne olympique qu'on connaît tous, et d'arriver en Guadeloupe avec elle, je pense que ça va être un moment assez magique quand on va être à Pointe-à-Pitre le 15 juin prochain.
Sur le bateau, comment vous allez répartir les rôles ? Comment ça se passe en fait ? Comment vous organisez cette traversée aujourd'hui ?
Alors ce ne sera pas une croisière, hein, vraiment on va faire comme si on était sur un équipage de course, même s'il n'y a pas d'objectif de résultat, il faut juste qu'on arrive à l'heure. Donc tout le monde va participer aux manœuvres, on va tourner, se relayer pendant une semaine en faisant des quarts, un petit peu ce qui s'est passé sur le Belém avec l'équipage qui a amené la flamme d'Athènes ici à Marseille. Donc il y aura deux équipes, deux, trois, et comme ça quand certains pourront se reposer, les autres seront sur le pont à la manœuvre pour pouvoir faire amener ce bateau comme prévu aux Antilles. Et puis on a la chance d'avoir en plus un chef étoilé, Hugo Rollinger, donc peut-être qu'il il nous alimentera avec quelques bons petits plats, j'espère. En tout cas, ça changera de ce qu'on a l'habitude de manger sur nos bateaux en course.
Eh bien, on suivra tout ça sur RFI. Merci, Armel Lecléache, en direct de Marseille.
Le journal en français facile.
L'actualité dans le monde, c'est l'Ukraine qui est sans électricité dans certaines régions en cette fin de journée et jusqu'à ce soir à cause de bombardements de la Russie, des frappes revendiquées par Moscou. Le Kremlin les justifie, c'est une réponse à des tirs ukrainiens sur son sol. Cette attaque est massive, elle est très importante selon Kiev. C'est la cinquième attaque sur des centrales qui produisent de l'électricité depuis la fin du mois de mars. Sur le terrain, la Russie revendique, affirme avoir pris le contrôle de deux villes en Ukraine. Elles sont situées dans l'est et le nord-est, dans les régions de Kharkiv et de Donetsk. Dans ce contexte, certains restent coûte que coûte dans la ville de Kharkiv. Elle est située à 30 km à peine de la frontière avec la Russie. Reportage sur place de Stéphane Suon.
Dans le café Makers, même à midi, il est difficile de voir la lumière du jour car toutes les ouvertures ont été remplacées par des protections en contreplaqué après un bombardement qui a ravagé une bonne partie de la rue, comme le raconte Dmitro Kabanets, propriétaire du bar.
Ça s'est passé à 22h et un quart d'heure plus tard, je suis arrivé et j'ai ouvert la salle. Toutes les fenêtres avaient volé en éclats. Un de mes barmen était déjà là et la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il fallait faire du café. Le lendemain, à 8h, on fonctionnait déjà en régime habituel, juste il y avait de la casse.
À Kharkiv, déserté en 2022, près d'un million d'habitants sont revenus et Dmitro remarque un véritable boom dans la création de commerces et de petites entreprises. Pour certains, travailler à Kharkiv, c'est un acte de résistance. Ainsi, malgré les coupures d'électricité, Anna Zori, une jeune entrepreneuse qui fabrique des sacs à main, refuse d'exiler sa production.
Je n'aime pas les bombardements, mais j'aime ma ville. Je ne veux pas en partir, je veux vivre ici. Un des principes de mon travail, c'est que je veux fabriquer des sacs made in Kharkiv et pas à Kiev. La ville continue à vivre quand les gens y restent. Je veux être ukrainienne à Kharkiv et c'est ma façon de protester contre les Russes.
La seule raison qui pousserait Anna à partir, si par malheur les Russes arrivaient à hisser leur drapeau dans la ville. Stéphane Siouan, Kharkiv, RFI.
Les États-Unis bloquent une livraison de munitions pour Israël. Le secrétaire américain de la Défense explique que c'est à cause de l'opération israélienne à Rafah. Depuis hier, des chars de l'État hébreu sont dans cette ville du sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne dit mener des raids ciblés contre des terroristes. Dans le même temps, des négociations pour une trêve ont repris ce matin au Caire, en Égypte. Des délégations israéliennes et du Hamas sont présentes. Une chanson interdite à Hong Kong, et pas n'importe laquelle, c'est un hymne composé au moment des manifestations pro-démocratie en 2019. Il s'appelle « Glory to Hong Kong », « Gloire à Hong Kong » en français. Il était devenu le cri de ralliement des opposants au gouvernement et il est très populaire. Correspondance à Hong Kong, Florence de Changy.
On n'entendra donc plus résonner le « Gloire à Hong Kong » ni dans les centres commerciaux, ni dans les rues de la ville, ni dans les préaux, où il était d'ailleurs déjà interdit par le ministère de l'Éducation, ni dans les stades de sport, où il a souvent été joué par erreur à la place de la marche des volontaires, l'hymne national chinois, y compris au cours de compétitions internationales. Ces derniers incidents, très humiliants pour le gouvernement, ont sans doute renforcé la détermination des autorités de Hong Kong à faire interdire ce chant. Ce qui est chose faite depuis la décision de justice rendue aujourd'hui. Dans le jugement de 61 pages, le juge affirme que le compositeur de ce chant a voulu en faire une arme et c'est ce qu'elle est devenue. Il souligne la puissance de ce morceau. Pourtant, en première instance, en juillet dernier, un tribunal de Hong Kong avait estimé qu'interdire ce morceau était incompatible avec la garantie des libertés, et notamment la liberté d'expression. Mais dans sa déposition d'appel, le gouvernement a indiqué à son tour que même la liberté d'expression avait des limites. France de Changi, Hong Kong, RFI.
Et pour refermer ce journal en français facile, cette question, qui va affronter Dortmund en finale de la Ligue des champions de football? Est-ce que ce sera le Real Madrid ou le Bayern Munich? Ce soir, les deux équipes jouent au stade Santiago Bernabéu, 19h TU pour le coup d'envoi. À l'aller, les deux équipes s'étaient séparées sur un match nul, 2 buts partout.